n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Un mercredi sur deux à 19h, c'est Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma sur Radio G. Chroniques, entretiens, coups de cœur, on fait usage de toutes les ruses pour partager avec vous notre passion. Cette émission est fabriquée à plusieurs mains, à plusieurs voix. Bonsoir Véronique.
Bien le bonsoir.
Nous sommes exceptionnellement deux, mais on salue bien chaleureusement Margot, notre complice habituelle. La vraie patronne de l'émission.
Ouais, Margot, tu nous manques déjà.
Mais ça va être super quand même.
Ça va bien se passer.
Elle a posé son joker cette fois-ci, on la retrouvera très bientôt. Alors ce soir, on a convié une voix professionnelle du cinéma et on pourrait ouvrir le standard, s'il y avait un standard, et vous inviter à poser vos questions à un directeur de la photographie. Car voilà, notre invité Nicolas Contant, chef opérateur et réalisateur. Et si vous vous demandez qu'est-ce que peut bien diriger un directeur de la photo, restez, normalement il répondra à toutes nos questions. Il y a également au programme de cette émission un agenda cinéma, puisqu'on est là pour ça. Tu veux nous dire un petit peu ce que tu as choisi, Véronique ? Ou c'est une surprise ? Je te prends pour vous.
J'ai choisi de revenir sur les clips d'ici, dont on a parlé la semaine dernière, et puis de faire une petite proposition de film jeune public pour les vacances.
Très bien. Bon, alors je vous l'ai dit, on a un invité qui a pour métier d'être derrière la caméra. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. Donc tu es directeur de la photo, tu réalises aussi des films pour des documentaires de création, des fictions, des clips aussi parfois. Tu travailles sur des projets qui peuvent être très très différents. Et plus, je ne vais pas tenter d'être exhaustive dans tout ce que tu as pu réaliser. Et là, moi, j'ai un peu l'impression d'être sur le mode d'une rencontre conseillère d'orientation en me disant quel est ce métier qui est à la fois central dans la fabrication d'un film et auquel on ne pense pas du tout tout de suite au départ. Moi, j'avoue que c'est très mystérieux. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quel est le rôle du directeur de la photographie et chef-op, c'est la même chose.
Ouais, directeur de la photographie et chef-opérateur, c'est deux mots. Pour parler du même métier, c'est des cultures un tout petit peu différentes, mais en réalité, ça recouvre vraiment la même chose. Et donc, le directeur de la photo, c'est le... moi, je préfère directeur de la photographie. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus joli et de plus photographique, d'être déjà avec la lumière et l'écriture, alors que le chef opérateur est peut-être plus assigné à la gestion des machines. Mais donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le directeur de la photographie, c'est le collaborateur du réalisateur pour la partie image. Donc, de même que l'ingénieur du son va penser le son du film, le directeur de la photographie va être celui qui travaille à l'image. Et plus concrètement, c'est avec le directeur de la photographie qu'on va concevoir l'image du film et la mettre en œuvre. C'est-à-dire la concevoir en amont, en prépa, et la mettre en œuvre sur le tournage avec un choix d'optique, un choix de projecteur. Et ça peut aller jusqu'au découpage. Le découpage, parfois, est le fait du réalisateur, mais parfois, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand c'est une vraie collaboration avec le directeur de la photographie et qu'on peut aller assez loin dans l'écriture cinématographique.
Mais justement, comment ça se fait, ce travail-là, entre réalisateur, entre directeur de la photo? Parce que dans l'imaginaire, on se dit, un film, c'est dans la tête du réalisateur, de la réalisatrice. Et c'est vrai qu'on ne pense pas trop à l'équipe, ou alors on y pense comme les gens qui vont faire ce qu'il a décidé. Qui suggère des images? Enfin, en fait, comment ça se construit vraiment?
Ça arrive que le réalisateur puisse tout maîtriser dans un film. Mais plus les équipes sont importantes, moins c'est possible. Et puis, de toute façon, je pense que c'est au bénéfice du film et du réalisateur que de réussir à s'appuyer sur les bonnes idées de ses collaborateurs. Et donc, toutes les configurations existent. Il y a des réalisateurs qui délèguent totalement la partie découpage au chef-op, au directeur de la photo. Et d'autres qui... Donc, comme je le dis, là, pour moi, là où c'est le plus intéressant, c'est quand c'est une collaboration et qu'on invente les choses ensemble.
Donc, il y a aussi une part de création, de proposer des formes. Est-ce que tu peux proposer des cadrages, par exemple?
Bien sûr, oui.
Des durées de plan?
Exactement.
Enfin, quelle est ta marge un peu d'écriture?
Comme je dis, parfois, on a carte blanche, donc ça peut vraiment dépendre des cas de figure. Souvent, on va dire que les cas les plus médians, les plus courants, ça va être des cas de figure où le réalisateur a des idées d'images, mais ne sait pas forcément exactement comment les produire. Et du coup, nous, en nous posant des questions plus proprement techniques, par exemple le choix des focales, on va aboutir cette idée d'image. Parce que, par exemple, une idée de valeur, se dire on va filmer tel comédien dans un plan américain. Il y a plusieurs façons de le filmer en plan américain. On peut être à une certaine distance avec une certaine focale, ou bien plus loin avec une plus longue focale, ou bien plus proche avec une plus courte focale, et avoir la même valeur de cadre. Simplement, le changer de focale, dans ce cas-là, renverse complètement le rapport qu'on a au décor, qu'on a aux autres personnages, et donc ça modifie l'image en tant que telle. Donc parfois les cinéastes ont ce vocabulaire, ont cette culture, mais c'est pas toujours le cas. Donc nous, on les accompagne aussi pour voir, notamment sur les focales, qui est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Pour moi, la focale, c'est notre rapport au monde, et c'est l'espace esthétique du film aussi. Donc pouvoir aller dans ce niveau de détail de la discussion avec le réalisateur, c'est pour moi aboutir l'écriture.
La focale, ça correspond à qu'est-ce qui va rentrer dans le champ en fonction de l'objectif, hein, de...
La focale, c'est la valeur de zoom pour les...
Le grand public.
Pour le grand public, voilà. Et sinon, c'est l'angle de champ de l'optique. C'est-à-dire, est-ce que l'optique qu'on va utiliser, donc l'objectif qu'on va utiliser, va intercepter un champ qui est large ou un champ qui est resserré, voilà.
Okay. Donc, est-ce qu'il faudrait être très loin du sujet ou pas très proche?
Voilà. Ouais.
Est-ce que tu peux peut-être nous raconter des moments de travail, de comment tu as fait avec le ou la réalisatrice pour aboutir à telle image sur les films auxquels tu as participé?
Oui, mais je pense par exemple à un film sur lequel on est en développement en ce moment, qui est un film, donc en développement, ça veut dire qu'il n'est pas encore en production, qu'on est encore en train dans une phase de recherche.
De l'imaginer.
Voilà, on a quand même tourné des images pour pouvoir réfléchir au film sur une matière concrète, mais on n'est pas encore entré en production, donc c'est une phase qui est évidemment très riche. Et on tourne avec des personnes qui sont sourdes et malentendantes, et donc la langue des signes est la langue peut-être pas principale, mais en tout cas qui est équivalente au français dans le film. Et ça a l'air de rien, mais en fait ça pose beaucoup de questions de découpage, parce que avec le français on peut faire du hors-champ sonore. Dès qu'on a un plan d'écoute par exemple d'un personnage, on est obligé de le penser en in et non pas en off. Ce que je veux dire, c'est que si une personne écoute, on est obligé de filmer la personne qui écoute,
et
ensuite
qui regarde.
ce qu'elle est en train d'écouter, enfin de regarder. Et donc on a ouvert le champ de l'écriture cinématographique au split screen, et à des plans d'écoute qui sont découpés dans le temps, de manière à ce qu'on ait... le temps n'est pas linéaire dans le film, en fait. Pour reconstruire la linéarité de ce que nous, on vit quand on est avec les personnages, il faut fabriquer un temps qui soit linéaire dans la structure du film, dans le montage.
Le split screen ?
Alors le split screen, c'est le fait d'avoir deux images dans une image.
D'accord.
Donc quand on fait un champ contre champ, on a à gauche une personne et à droite une autre personne qui est ailleurs dans l'image, dans le décor. Et nous, par exemple, c'est une manière de presque de moquer, ou en tout cas de prendre le contre-pied des petites vignettes des interprètes sourds et malentendants dans les JT ou dans les images officielles, où les sourds et malentendants sont toujours relégués à une petite partie de l'image. Et nous, on les rend à égalité avec la personne qui signe, le comédien qui parle. Et même le comédien qui parle, on peut l'effacer et mettre une troisième personne qui sera en train d'écouter, ou bien un paysage ou autre chose. En tout cas, on maintient la personne qui parle en langue des signes. Oui, peut-être ce qu'il faut que je dise, c'est que le film porte sur des textes de poésie de Louise Labbé.
Ah, oui.
Et donc, c'est beaucoup des textes qui sont interprétés. Donc, ils sont interprétés dans les deux langues en même temps pour aussi pour les rendre sensibles, parce que c'est des textes qui sont en vieux français et la langue des signes nous permet de les rendre très incarnés, très, très sensuels, parce que c'est des textes qui sont pour la plupart des textes... qui part de la sensualité, du désir, voilà, merci, du désir des femmes, notamment.
Et tu parlais de découpage tout à l'heure, de valeur de plan. À quel point l'idée de montage et de toute la post-production, ça peut intervenir dans la façon dont tu vas travailler, qui est aussi se poser des questions avant le tournage, baliser au maximum le moment du tournage. Est-ce que ça, vous y pensez et est-ce que tu interviens aussi sur la post-production?
Donc, ça m'arrive de superviser l'étalonnage, c'est dans le meilleur des cas. L'étalonnage, c'est la partie vraiment finale de fabrication du film où on va ajuster les couleurs. Sur la partie montage, en général, je ne suis pas invité sinon à jeter un œil par amitié pour les réalisateurs. Mais ce que les réalisateurs essayent de ménager dans la fabrication du film, c'est un temps du tournage où il y a beaucoup d'implications sensibles sur le terrain, où on est avec les personnages, que ce soit des comédiens ou que ce soit des personnes dans le cadre de documentaires. Il y a un affect très fort, qui est un affect du tournage. Et l'idée, c'est qu'en post-prod, on fait un peu table rase de tout ça, on recommence à zéro avec un monteur qui n'a pas cet historique-là, et qui peut vraiment juger les images comme des images, et comme une matière pour raconter une histoire, et non plus comme des souvenirs. Donc nous, on n'a pas forcément un très très bon point de vue au moment du montage. Cela dit, tout ce qu'on fait, c'est en pensant au montage. Donc il y a une sorte de rupture qui est d'ailleurs pas toujours très agréable à faire, ou en tout cas quand on est un jeune technicien, c'est quelque chose qui peut paraître un peu étonnant. C'est qu'on ne cesse de penser au tournage, on ne cesse de penser le découpage. Le découpage, finalement, c'est quoi? C'est le montage avant le tournage. Hein, c'est une prévision, c'est une hypothèse de montage. Donc on est en permanence en train de penser à ça, que ce soit penser nos plans de coupe, penser nos longueurs, penser nos raccords. On est en permanence, y compris en documentaire, en train de penser aux règles classiques du cinéma pour assurer des raccords, que les images puissent être montées les unes avec les autres. Et en même temps, une fois que le tournage est terminé, notre participation est terminée et l'écriture recommence à zéro avec le montage.
C'est un métier, directeur de la photographie, qui fait appel à de la technique, vraiment des questions matérielles. Il y a aussi une question d'écriture, d'être auteur quelque part. Toi, tu es aussi réalisateur, où là, on incarne un petit peu plus cette position d'auteur. Est-ce que tu as l'impression que ces facettes, comment ça dialogue, toi, dans ton travail, dans ta façon de faire de l'image?
Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça dialogue, Mais je sais que ça peut ne pas être simple pour tous les collaborateurs, tous les réalisateurs avec qui je travaille, parce qu'il peut y avoir ce risque que justement je prenne une part dans l'écriture qui soit pas forcément la bonne à leurs yeux. Donc c'est quelque chose qu'on ajuste au fil de la relation. Pour moi, justement, le fait qu'il y ait une coupure au montage me garantit finalement que ma place, elle va être toujours à peu près bonne, et que même si je donne des idées, je propose en permanence, en définitive, je serai pas là pour dire ce qu'est la bonne idée et la mauvaise idée. Donc j'ai le droit d'y aller, quoi. Bon, après, c'est des pactes aussi qu'on établit entre réalisateur et directeur photo, mais également avec l'ingé son, avec tous les collaborateurs.
Toutes les personnes qui ont des bonnes idées.
Justement, je me posais une question par rapport au travail du son. Comment vous collaborez sur l'interaction entre l'image et le son au moment du tournage? Enfin, est-ce que vous dialoguez, ou est-ce que c'est une mise en commun de deux approches sans trop de dialogue?
pour moi, c'est très important de pouvoir collaborer avec l'ingé son.
Et ça se passe comment, du
et
coup Bien.
Traditionnellement, oui. on dit que ça se passe mal, qu'il y a des frottements, parce que c'est évidemment si un directeur de la photographie qui voudrait faire exactement tout ce qu'il faut pour l'image tout le temps, bah, ce serait au détriment du son et réciproquement.
Ah oui.
Donc il s'agit de trouver des modes opératoires pour que les choses se fassent. On a en ligne de mire tous, les uns et les autres, le film, l'objet artistique. Donc on essaye de travailler en bonne intelligence. Et bon, c'est aussi l'expérience qui fait qu'on arrive à trouver les moments où il faut être plus déterminé sur nos nécessités d'image, par exemple. Et parfois où il faut vraiment laisser la place pour le son, pour que le film soit le plus beau. Mais bon, après, moi, j'aime beaucoup le son. Et j'espère que mes amis ingé son avec lesquels je travaille ont cette impression que la collaboration est facile. Mais pour moi, on n'est pas en train de... chacun de faire... Enfin, voilà, je pourrais me dire... moi, je suis directeur de la photographie. Mon but, c'est que l'image du film soit la plus belle. Et je pense que là, on passe à côté de l'essentiel. Il y a beaucoup d'opérateurs qui fonctionnent comme ça. Les directeurs de la photo peuvent avoir un peu cette réputation de prendre beaucoup de place parce que l'équipe image est souvent l'équipe la plus importante en nombre de personnes. Et puis, il y a traditionnellement des égos, des autorités sur le plateau de tournage qui fait que c'est des gens qui peuvent prendre la place. Mais en définitive, ce qui compte, c'est le film. Donc, un film avec une très belle image, mais qui raconte rien ou qui le raconte mal, bon, ben, c'est pas... ça ne nous intéresse pas de travailler dessus.
On ne va pas le retenir. Ouais. et toi, comment tu as fait ce choix de faire ce métier-là ? Dans le cinéma, c'est déjà un premier choix, et directeur de la photographie, réalisateur, c'est d'autres choix ?
Je pense que c'est probablement, comme pas mal de personnes, quelque chose qui s'est construit un petit peu. Enfin, moi, je suis arrivé au cinéma pour faire des films, sans savoir ce que ça voulait dire que faire des films, et puis j'intègre une école... qui détaille les métiers, et je me retrouve à découvrir ce métier de directeur de la photographie. Pour être plus vrai, en fait, c'était une école de chef-op, c'était une école de directeur de la photographie, mais je ne savais pas très bien quels étaient les contours des différents métiers, et il s'est avéré que c'était mon métier, quoi. Et je m'en suis rendu compte tout de suite, quoi, en faisant les exercices dans cette école.
Donc c'est devenu évident.
C'était une évidence. Et même si tout à l'heure tu disais que je réalise aussi, je réalise aussi. J'ai réalisé un film, je suis en train d'en réaliser un deuxième, mais chaque film prend du temps. Donc c'est pas mon activité principale du tout. Et j'ai tendance à dire que c'est une activité un peu amateur que je fais, parce que par amour du cinéma... c'est presque en marge de mon activité professionnelle. Et ces deux films sont un peu particuliers, puisque le premier film qui s'appelle Nous les Intranquilles était un film collectif, et donc j'étais pas le seul réalisateur. Et le deuxième est aussi un film collectif, il s'appelle Contre toute lumière, et l'autre réalisateur est malvoyant. Et donc en fait, ce film a commencé où c'était vraiment l'autre réalisateur qui était le réalisateur, et moi j'étais que chef-op. Et puis c'est en avançant qu'on s'est dit non, mais là, il y a notre configuration fait que quand même ma place, c'est une place de réalisateur. Donc c'est des configurations de réalisation qui sont un peu particulières quand même.
Ouais. On va écouter un extrait de un objet qu'on peut voir et écouter qui s'appelle Ceci n'est pas une bande démo. Peut-être on pourra en parler après, et c'est quelque chose qu'on trouve sur ton site.
Ce serait du genre, qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma? Et moi, qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire?
chef opérateur, c'est d'avoir sous les yeux un texte raconté avec des mots et comment faire surgir de ces mots des images. C'est tout le métier finalement et c'est toute la difficulté.
Utiliser la technique pour le plaisir de la technique, non, je ne suis pas partisan. Pour moi, la technique, c'est l'aide pour essayer de créer une image. Au fond, la technique n'est valable que si elle est totalement au service de l'art de l'image. Sinon, elle n'a pas d'intérêt.
Écoutez Radio G et c'était un extrait de la bande-son de Ceci n'est pas une bande démo, un montage son-image de Nicolas Contant qui est l'invité de Caméra Subjective ce soir en tant que directeur de la photo principalement. Nicolas, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des indices sur ce qu'on a entendu ?
On a entendu la musique de Beauty de Johan van der Keuken, qui est un cinéaste des années 70. Enfin, ce film a été tourné dans les années 70, un court-métrage, et la musique est de Willem Brucker. Ensuite, on a entendu Gilles Deleuze qui donnait une conférence au, je sais pas, c'était à la Fémis en 87, et c'était les mardis de la philo, ou quelque chose comme ça, ou les mardis du cinéma. Bon. Enfin, en tout cas, c'était un cycle de conférences qui avait lieu à la Fémis. Ensuite, il y avait la musique d'À bout de souffle, qui est un film de Godard, la musique de Martial Solal. Et enfin, Alcan, qui est un directeur de la photographie français de l'entre-deux-guerres. Qui est notamment connu pour avoir fait la photo de La Belle à la Bête de Jean Cocteau. Il a aussi travaillé avec Wim Wenders après la guerre, et voilà, c'est des figures importantes pour moi. Donc c'est que des personnes qui ont travaillé déjà il y a un certain temps, c'est pas du cinéma contemporain. Et en même temps, le sous-titre de cet objet, qui s'appelle donc Ceci n'est pas une bande démo, un peu parce que les bandes démos, tous les techniciens ont des bandes démos. Montrer ce qu'on sait faire, en général, c'est un regardable, c'est très démonstratif.
Est-ce que ça va piocher dans plein de films qui n'ont rien à voir
Voilà. Et en fait, c'est pas des films. Et donc moi, je m'étais dit, quitte à mettre des images que j'ai faites sur. Autant que ce soit déjà un petit film et que ça raconte quelque chose. Donc je dis, ce court-métrage raconte quelque chose de ma foi dans le cinéma. Et donc voilà, c'est le fait d'avoir ces cinéastes-là, c'est une sorte de patronage. C'est peut-être un peu prétentieux, je sais pas, mais en tout cas je me sens éclairé par ces grands noms du cinéma, quoi, que ce soit Van der Keuken, Godard ou bien Alcan, bien sûr, et Deleuze comme philosophe.
Et qu'est-ce que tu as envie de leur prendre ou de défendre un petit peu plus ?
Van der Keuken, pour moi, c'est vraiment la personne qui m'a donné envie de basculer vers le documentaire par la simplicité de son travail et la précision, la grande force de son travail, où finalement, la plupart du temps, ça se résume à savoir poser la caméra au bon endroit et déclencher. Et c'est un cinéma qui est modeste, mais qui est d'une très très grande puissance. Et je vous invite, j'invite tous les auditeurs à se renseigner sur ce cinéaste qui est, voilà, pour moi, qui est vraiment un cinéaste très important. Après, Godard et Alcan, pour moi, c'est deux tendances du cinéma. C'est-à-dire qu'Alcan, c'est quelqu'un qui fait du cinéma à une époque où il n'y a pas d'outils, où c'est très artisanal, où il y a beaucoup de un héritage du théâtre, des chantiers de construction pour tout ce qui est la partie décor. Et c'est des gens qui inventent, le cinéma a déjà quelques décennies, mais on est encore en train d'inventer, quoi. Bon, le cinéma s'invente toujours, mais disons qu'on est plutôt en train d'inventer dans dans une amplification de la forme, dans une sophistication, alors que Godard vient un peu en contrepoint de ça, en tout cas dans ces années-là, pour déconstruire une sorte d'establishment, d'un truc qui est d'une manière normale de faire, pour partir d'un amour du cinéma quand même de la part de Godard vers le bricolage. Donc j'ai l'impression que c'est des trajectoires qui sont un peu croisées entre Alcan et Godard, et en même temps dans les deux cas c'est des gens qui sont qui ont une foi pratiquement religieuse dans le cinéma. Et quand Alcan dit il faut pas être dominé par la technique, il faut pas faire la technique pour la technique, ça n'intéresse pas, au fond ce qu'il faut c'est l'art de l'image. Je pense qu'il y a ce même amour de du cinéma chez Godard et chez Alcan, et notamment pour boucler avec Deleuze, histoire d'avoir parlé d'un peu tout le monde, c'est que l'introduction de la conférence, mais en gros Deleuze se pose la question de c'est quoi le rapport entre la philosophie et le cinéma. Le cinéma prend le relais de la philosophie quand la philosophie théorise le monde, et que pour parler du monde, pour dire le monde, le concept ne suffit plus, mais qu'il faut proposer des formes sensibles. Et donc c'est ça que font Godard et Alcan, voilà. Et moi c'est ça que j'essaye de faire aussi, c'est-à-dire pas la technique pour la technique, mais une fabrication un peu comme ça mystique d'images pour raconter et pour raconter sur le mode du sensible.
Tu as parlé de documentaires, toi tu interviens, tu travailles beaucoup sur des documentaires. Il y a beaucoup, j'imagine, en tout cas d'adaptations, enfin de choses qui sont balisées en amont, de choix de cadrage, de focale, etc. Et puis d'imprévus sur le moment. Il y a aussi les besoins pour faire un film, d'avoir une équipe, d'avoir du matériel, ça prend un petit peu de place, ça vient s'inviter dans la vie des personnes qu'on filme, des personnages. Comment tu négocies avec toutes ces contraintes-là qui peuvent être opposées ou pas ? Enfin, je sais pas comment ça se... Comment vous restez discret pour filmer ?
Moi, j'essaye pas trop d'être discret pour filmer, parce que je crois que c'est toujours raté, en fait, quand on essaye d'être discret. Mais plutôt, oui, il faut inventer des manières d'être... Pour que le film se fasse. Donc ça peut être en général c'est ça veut dire prendre du temps ou bien établir une méthode de travail qui fait que la caméra ne pose de problème à personne. Et après c'est vrai que c'est quelque chose qui se pose davantage en documentaire qu'en fiction, parce que souvent ce type de caméra les gens n'ont pas forcément vu, mais en réalité pour moi dans la mesure du possible, je ne distingue pas trop quand je fais du documentaire ou de la fiction. Peut-être parce que les projets qu'on me propose sont souvent par nature un peu hybrides, et que quand je parlais du film sur Louise Labbé, donc la poétesse dont on va faire dire des textes en langue des signes, c'est du documentaire, mais en même temps, c'est des gens qui interprètent des textes. Peut-être le film le plus gros sur lequel j'ai travaillé en termes d'équipe, c'était un documentaire où on avait beaucoup de machinerie, beaucoup d'éclairage, etc. Et puis il y a des fictions sur lesquelles je travaille où il y a vraiment très peu de monde, ou des acteurs non professionnels, ou de l'impro. Donc peut-être que c'est la nature des films sur lesquels je travaille qui me pousse à penser ça, mais je crois que même avec des comédiens professionnels, payés, il y a un rapport à la caméra qui doit s'instaurer. Et si on ne pense pas ce moment-là, ben on fait du flux, c'est-à-dire on produit des films comme on produirait des petits pains industriels, pour reprendre une métaphore d'un ami.
Et pourquoi pas ?
Ça s'appelle la télévision, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est pas exactement moi la manière dont je
dont t'as envie de faire les choses. Voilà. Donc si je comprends bien, toi entre réel et fiction, il y a quand même pas mal de porosité aussi dans les façons d'écrire des films et l'image.
Oui, oui. Donc tout à l'heure, tu disais, alors comment on fait ? On pense les choses, on les écrit, on les fige, et puis à un moment, il y a le réel qui surgit. Et c'est vrai qu'il y a ce surgissement du réel est beaucoup plus important en documentaire qu'en fiction, mais il intervient quand même. Et ça arrive qu'une scène prenne un tournant très différent au vu de comment le comédien va se l'approprier, ou parce qu'un décor va nous emmener quelque part, ou bien une lumière parfois, une météo va nous emmener dans une tonalité qui va faire que ça va agir sur le film en son endroit le plus intime. Et donc, comment on fait ça, comment on rebondit? Donc moi, j'ai coutume de dire qu'il faut, tout préparer, il faut être le plus carré possible en prépa pour bien rebondir quand on va être surpris, quoi. Parce qu'on ne peut pas être surpris sur tout. Et bien préparé, ça permet d'accueillir la surprise, de réussir à improviser. Alors, pour Van der Keuken, je crois, lui disait ça, que c'est comme faire du jazz, c'est-à-dire que des grands jazzmen qui improvisent, ils improvisent, mais ils n'improvisent pas à partir de rien. La plupart du temps, ils ont joué beaucoup ensemble, ils ont des patterns, des grilles, des choses qui leur permettent d'asseoir un petit peu leurs improvisations, et dans une certaine mesure, je dirais que notre travail, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a un scénario, on a du matériel, et on essaye de suivre la partition, mais en fait, à un moment, il va y avoir quelque chose qui va nous emmener en dehors de la partition, et on va réussir tous ensemble à accueillir ce pas de côté pour que le film se fasse.
Véronique, je ne sais pas si tu avais des questions, des choses.
Beaucoup, mais en fait, c'est,
oui, c'est l'heure.
Ah oui, d'accord. Oui.
Non, mais alors, si t'as une ultime question, après, les autres questions ne passeront peut-être pas à l'antenne. Oui, c'est la fin de cet entretien qui est passé vite. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler de ton métier. On mettra en lien des choses pour voir ton travail, pour suivre ce que tu as pu faire sur le site de Radio G à la page de l'émission. Et pour se quitter, on va écouter un titre de Perceuse. Alors Lala, c'est le titre ?
Exactement, Perceuse, c'est le groupe. Lala, c'est le titre. Grosse inspiration pour le titre. Et oui. Tu veux que je te dise...
Avec plaisir.
Voilà, donc c'est la musique, enfin un des morceaux de musique qui sera dans le prochain film que je réalise, donc qui s'appelle Contre toute lumière et qui est réalisé avec cet ami malvoyant.
Sylvain Beaulieu.
Thank you.
Radio G et Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma. Et maintenant, c'est l'agenda ciné proposé par Véronique.
À mon tour. Bien, lors de notre dernière émission, nous avions parlé du concours Clip d'ici. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous en donner quelques nouvelles. Petit rappel, cette année, 166 clips venus des quatre coins du Grand Ouest ont été envoyés aux organisateurs, Le Chabada et Premier Plan, et le jury en a présélectionné 18 qui ont été diffusés jeudi dernier au Chabada. Deux prix, celui du jury et celui du public, récompensent les lauréats. Le prix du public n'est annoncé que vendredi 1er avril, je ne peux donc pas vous en parler. Mais nous connaissons le prix du jury qui a été dévoilé jeudi dernier. Il a été décerné à Perrine Drouillet, une angevine de 25 ans qui a réalisé le clip de David Rimbaud, alias Vapa, pour son morceau de musique électro Deep. C'est un clip réalisé en cinéma d'animation. Comme la musique, il est doux et onirique. Je vais vous citer Perrine Drouillet qui s'est exprimée sur son projet sur le site de Key Blind, je ne sais pas comment il faut dire. Le morceau est facilement ressenti comme un écho à beaucoup d'émotions vécues ces derniers mois. L'isolement, le vertige du vide, les souvenirs d'étreinte. J'y ai alors trouvé un symbole avec cet astronaute et ce poisson, tous deux à tourner en rond, en orbite, autour de nous-mêmes. Des flashs, des photos, une ville déserte qui se décompose et des bulles, plein de bulles, on bulle. Voilà pourquoi j'ai basé ce film sur une forme circulaire qui revient régulièrement. Les envies d'espace, d'inconnu, de danse et de contact se mélangent dans un univers graphique cosmique. Un blanc sur noir, profond, contraste avec les couleurs vives, presque électriques. Si cela vous donne envie de voir le clip, nous allons mettre le lien de visionnage sur la page de l'émission. Je continue avec une autre thématique. Puis, comme les vacances scolaires ne sont pas loin, je voudrais vous parler du film d'animation Icar qui sort en salle aujourd'hui et qui est conseillé aux enfants à partir de 8 ans. Bande-annonce.
Demain sera un grand jour pour nous. Tu vas venir avec moi jusqu'au palais.
Mon très illustre Dédale, la matière prend vie sous tes mains.
Je t'attendais, oiseau.
C'est toi qui parles dans ma tête ? Qui es-tu ?
Cette immonde créature doit disparaître. Reviens me voir avec un plan.
Le réalisateur s'appelle Carlos Voguele. On ne connaît pas encore son nom car il s'agit de son premier long métrage. Mais nous pouvons compter sur la qualité de son parcours. Né au Luxembourg, il dessine depuis l'enfance, grandit en France et fait de sa passion un métier après avoir étudié à l'école des Gobelins à Paris. Longtemps animateur au studio Pixar aux États-Unis, il rentre en Europe pour signer ce premier film, le très beau Icar. Le film est construit comme un grand film d'aventure mythologique. Et quand on demande à Carlo Voguele quelle résonance peut avoir le mythe d'Icar aujourd'hui, il répond que la morale du mythe « il ne faut pas aller trop vite et trop haut au risque de se brûler » peut être mal comprise. Elle pourrait inciter à ne pas croire en ses rêves, à ne pas être curieux. Cette interprétation ne lui convient pas. Donc il raconte une autre histoire d'Icar, sans morale, avec un personnage qui semble se jouer du destin soi-disant tracé par les dieux et leurs caprices. Le film est au 400 coups à Angers et au CGR de Cholet depuis aujourd'hui. J'attire votre attention sur la projection qui aura lieu le premier dimanche des vacances, c'est-à-dire le 10 avril, à 10h15 et au 400 coups, car il s'agit d'une séance cinéma différence. Ouverte à tous, elle est adaptée pour les enfants et adultes en situation de handicap mental ou psychique. La lumière s'éteindra progressivement et le son sera abaissé pour ne pas agresser les oreilles sensibles. Et voilà pour aujourd'hui. Je te redonne la parole, Anneli.
Merci Véronique pour ces conseils. C'est la fin de l'émission. On prend le temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. Toutes les infos seront en ligne sur le site de Radio G à la page de Caméra Subjective. Il y aura bien sûr des liens et des infos sur tout ce dont nous avons parlé ce soir et même tous les autres soirs, toutes les autres émissions. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours positifs, critiques, dévastateurs. on est prêtes, on sera ravis de vous lire ou de vous entendre. Et dans 2 semaines, si tout va bien, si je m'attaque au montage, il y aura une émission hors série, à savoir une sélection des moments qu'on a choisis. Passez une belle soirée, voyez de bons films. À bientôt.
À très bientôt, au revoir.